Serge Bouchard, anthropologue, Serge Bouchard, penseur, auteur, Serge Bouchard, animateur de radio, conférencier. Parler de spiritualité dans, chez les mondes amérindiens ici, l'animisme, le titre, c'est quoi? C'est la première religion de l'homme?
L'animisme est la première religion de l'homme, on n'y pense pas souvent. C'est-à-dire que nous sommes confrontés à... Aujourd'hui, on regarde les grandes religions à travers le monde. Bon, souvent, puis même nos enfants vont l'apprendre et nous-mêmes, nous l'avons appris. Bon, le judéo-christianisme, c'est un grand courant religieux. Les musulmans, c'est un univers religieux bien défini. Le bouddhisme, le taoïsme, etc., etc. L'animisme, c'est avant tout les développements religieux particuliers dans l'histoire. S'il y a quelque chose qui réunit les humains sur la planète, c'est l'animisme.
Et ce, quel que soit le niveau de développement des sociétés?
Toute société, à l'origine, les humains sont animistes. Et c'est intéressant parce que l'animisme, c'est un concept qui couvre toute notre réalité spirituelle. Finalement, nous sommes des animaux qui... La réflexion, vous savez, est un, la conscience humaine est un drôle de cadeau. C'est un cadeau qu'on dirait de grec, dans le sens où c'est bon de réfléchir, c'est bon d'être conscient, c'est bon de penser, mais vient avec la conscience de du temps qui passe, de l'espace infini, de la grandeur, mais aussi de l'autre monde. Il est un autre monde et ce monde est ici. À partir du moment où on le sait ça, la religion est créée. Ben, c'est la religion, la spiritualité apparaît. Et l'animisme, c'est bel et bien la première religion du monde, c'est-à-dire que c'est tous les êtres humains, chasseurs, nomades, qui se déplaçaient à l'échelle de la planète, bon, et qu'on va par... D'ailleurs, on va les qualifier les chrétiens vont les qualifier de païens dans l'univers colonial. Ces gens qui sont sans religion. Mais quand t'as pas de religion, t'es animiste. C'est-à-dire que t'es spirituel et tu as ce rapport au monde qui est le monde est métaphysique autant qu'il est physique et la partie métaphysique est plus importante que la partie physique. Moi, dis, quand tu vois un arbre, méfie-toi. Derrière l'arbre, il y a une dimension. Quand tu vois un animal, méfie-toi. Derrière l'animal, il y a une dimension. Et c'est sans fin. C'est-à-dire qu'une âme habite chaque chose, chaque vie, chaque réalité. Une âme. D'ailleurs, le très beau métier d'animateur, animateur de radio, donner une âme à la radio, donner une âme à... Alors, l'âme est partout. Et les animistes, les Amérindiens ont développé cette vision, très mal comprise pendant longtemps, mais qui est devenue une caricature. Cette vision, ils ont développé cette vision qu'une âme et un esprit, on peut dire âme et esprit, habitent toute chose.
Et cette spiritualité-là n'est pas nécessairement une religion, c'est pas nécessairement... Ça peut vivre avec, mais c'est pas des synonymes.
Non, parce que la spiritualité est plus vaste que la religion. La spiritualité, c'est presque synonyme d'humanité. Tout être humain est spirituel. D'ailleurs, il y a cette très, très belle phrase d'un prophète dainais, Athapascan du Grand Lac des Esclaves, qui disait, c'est un journaliste qui avait posé une question, puis il disait, « Vous savez, nous étions trop spirituels pour être religieux. » C'est quand même toute une... Oui, c'est très, très belle réponse qui dit... nous, on pense que, par exemple, être chrétien, quand on est animiste, être chrétien, c'est un peu décadent si on n'était que chrétien. Par contre, l'animisme, qui était beaucoup la religion de la Chine, soit dit en passant, de la Chine traditionnelle, la Chine ancienne, la Chine, c'était une spiritualité englobante, donc qui pouvait accueillir les autres religions. C'est assez curieux que dans l'ancien temps, les humains étaient moins tolérants qu'aujourd'hui. Donc, l'animisme reçoit les autres religions et l'inverse, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand les religions monothéistes révélées comme... On devient sectaire. Parce que là, il y a un problème de la vérité. Moi, si je m'amène avec le bâton d'Abraham ou le bâton de Moïse ou la table de Moïse, puis le bâton d'Abraham d'un côté, puis je dis, ben écoutez, c'est ça la vérité. La vérité, ça s'est pas passé en Arizona, ça s'est passé au Moyen-Orient. Ça s'est pas passé comme ceci. Donc, j'ai une vérité révélée. Tandis que l'animiste défend aucune vérité. C'est un regard sur le monde, c'est une vision du monde très englobante. qui parle de l'esprit. C'est pour ça qu'on a caricaturé les Amérindiens dans les dialogues de films ou dans les dialogues de théâtre ou même de romans. Le grand esprit et ce fameux concept qui va faire le tour du monde, qui est algonquin, hein, Manitou, le grand Manitou, par le grand Manitou, qui est un concept universel. On le retrouve en Indonésie sous le type de mana. Le mana. Et ça a été, on a étudié, Marcel Mauss a étudié l'universalisme du concept de mana, de Manitou, qui ça revient toujours au même, c'est la force. Mm-hmm. Et la force. Et quand je vulgarise cette notion devant des publics, je dis toujours, regardez la guerre des étoiles. La guerre des étoiles,
que la force soit avec vous.
Que la force soit avec vous, avec des guerriers blancs, des guerriers noirs, la force maléfique, la force bénéfique. Mm-hmm. En fait, vous avez là les ingrédients de l'animisme de base. Parce que ce sont les débuts des règles morales aussi. C'est intéressant. Mm-hmm. Parce que si vous dites la force, il faut respecter, vous approprier, danser, vivre, toucher le rythme de l'univers. Aller dans le sens de la force bénéfique de l'univers.
Mais comment ça se décline dans la vie de tous les jours chez les Amérindiens? Cet exemple qu'on dit souvent, toutefois, par exemple, le chasseur qui va dans le bois, le chasseur Innu qui va chasser son caribou, qui va demander à l'âme du caribou de se donner de sorte que la viande soit bonne, qu'il puisse nourrir sa famille. Ça se décline comme ça, entre autres.
Ça se décline par une série de règles, un protocole. L'animiste est convaincu et quelqu'un qui va être très sensible à la nature, au bruit de la nature, aux pulsations de la nature, à la musique de la nature, aux odeurs et aussi à l'équilibre. Alors, il est comme un, ça devient, ce sont des sociétés maniaques d'une sorte d'équilibre, obsédés de ne pas offenser, de ne pas agresser, de ne pas scarifier, de ne pas faire du mal à la nature. Alors, le spiritualisme amérindien se rapproche de la poésie, mais se rapproche d'une sorte de recherche de perfection dans l'équilibre. Ce qui veut dire que le protocole devient très important. Il est très important, quand vous avez tué un ours, de le dépecer comme... S'il y a une faute, une petite faute dans le dépeçage, si vous avez échappé ceci, si vous avez mal placé ceci, il y aura une conséquence, la nature va rétablir l'équilibre et vous allez en subir les foudres. L'obsession des Chinois classiques pour la nature et l'équilibre et l'espace, l'orientation, les paysages, la perfection et tout, ça vient de là. C'est une sensibilité à la fois esthétique, poétique, mais spirituelle, je dirais profondément spirituelle. Évidemment, les missionnaires, les coloniaux, les colonisateurs ont très mal compris les Amérindiens là-dessus. Ils les ont vus comme étant des superstitieux, des objets terrorisés par la nature, terrorisés par des dieux. Souvent, on les a traités de polythéistes parce qu'ils adoraient des pierres. Mais tout ça, c'est fou. Ils n'adoraient pas des pierres, ils respectaient le ruisseau, ils respectaient l'eau, ils respectaient l'air, ils respectaient les arbres. C'était une vision du monde qui est restée. C'est-à-dire, c'est un héritage des Amérindiens. Les Amérindiens, les Africains, les Indonésiens, les Chinois dont on parlait, mais une foule de cultures et de peuples qui, à l'origine, se comportait avec la nature de façon respectueuse. Mm-hmm. Et ça, c'est un héritage qui vient jusqu'à aujourd'hui, parce que le discours est encore là aujourd'hui. Le discours de la terre-mère, les écologistes, ils utilisent le langage animiste ou le langage pour, tu sais, aller embrasser des arbres, la terre-mère qu'il faut pas.
Oui, par exemple. pour avoir discuté avec certains Algonquins, quelque chose que j'arrivais peu à comprendre, et encore difficilement, cette notion de dire on est très conscient qu'il existe une autre dimension à côté,
oui,
qui est là, qui est très,
oui,
présent.
Oui. Et ça, la spiritualité crée cette autre dimension. Vous savez que ça a été un problème en justice au Canada, dans les cours de justice, au 19e siècle, avec les Inuits, mais avec les Algonquins, avec les Danais, avec les Sioux aussi, c'est que quand la police montée ou la police fédérale amenait en justice pour des crimes, vol, violence, et dans certains cas, des crimes très graves, on a eu un cas meurtre. Célèbre de meurtre et dans les années 20, l'Inuk plaidait, c'est l'autre, c'est mon double qui l'a fait. Donc, moi, je suis innocent, que vous voyez ici, c'est mon double. Donc, le monde du rêve, alors chez les Algonquins notamment, le monde du rêve est très important, et quand vous êtes actif en rêve, ça, c'est la vraie réalité. Votre réalité d'éveil est secondaire. Ce qui veut dire que moi, j'ai bien connu des chasseurs, des grands chasseurs qui disaient, quand je me levais le matin que j'avais tué, dans la nuit, dans mon rêve, la partie était jouée. Je pouvais me détendre, c'était fait. Tout ce que j'avais à faire dans la journée, c'est de réaliser le rêve de la nuit. Et je savais très bien que ça allait se produire. Et puis, il y était plein d'exemples qui ne se posaient même pas la question. Le caribou que je cherche depuis 2 semaines, je l'ai tué cette nuit.
Donc, je le trouve aujourd'hui.
Donc, je le trouve aujourd'hui.
Dans mon autre réalité.
Et ça dit qu'il y a un lien entre cet autre monde et celui-ci. Et on se donne des rendez-vous. Autrement dit, c'est l'animal qui s'offre la nuit. Il est tué la nuit en rêve. Le reste est une conséquence concrète. C'est intéressant parce que c'est exactement le contraire de la pensée occidentale.
Absolument.
Rationnelle. C'est-à-dire que soyez concret, il y a une réalité, etc. On ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se comprendre quand quelqu'un vit avec toute la dimension spirituelle au complet, d'autant plus qu'on n'a pas valorisé du tout cette dimension. Alors, on n'a pas cru les gens, puis on les a trouvés même un peu primitifs. Parce que l'élaboration va très loin, là. Ça va très, très loin. Vous savez que ça peut aller jusqu'à la vision à distance, des pouvoirs surnaturels, voyager dans l'espace, qui est un rêve universel, des esprits qui voyagent dans l'espace, ou avoir une information que vous ne devriez pas avoir, vous pouvez l'avoir en rêve. Chez les Algonquins, c'était très, très développé. Parce que cette spiritualité est aussi confrontée, c'est typique des sociétés confrontées au temps et à l'espace. Espace immense, un temps considérable, et un temps qui est rare, un temps qui s'écoule, un cycle qui revient vite. Alors, ça joue beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'on va battre le temps, jouer dans le temps, vaincre l'espace avec son esprit.
On disait aussi, Serge, que plein d'Européens pendant longtemps arrivaient ici, et encore aujourd'hui, on dit les Indiens comme étant un bloc monolithique, alors qu'il y a tellement de cultures, c'est un florilège de cultures et de différences. Est-ce que cette spiritualité-là se décline différemment?
Elle se décline différemment. C'est-à-dire que le fond est le même. Ce sont toutes des Inuits jusqu'en Terre de Feu, toutes des religions animistes fortes, donc des spiritualités très développées. Le pouvoir de l'esprit et l'importance de l'âme. Mais la déclinaison quotidienne est différente. Dans le cas des... En fait, ce que les grandes lignes de fracture suivent les activités concrètes. Les chasseurs nomades se ressemblent beaucoup dans cette volonté de contacter l'animal, de respecter l'animal, de dialoguer. C'est une immense prière. Ils sont toujours en train de prier, finalement, pour que la nature, que le contact soit conservé. Dans le cas des nomades, dans le cas des agriculteurs, des proto-agriculteurs tels que les Iroquois et certains Algonquins, mais les Iroquois et ceux qui viennent du sud, et là j'irai jusqu'aux populations mexicaines, la vision du monde va être, les systèmes vont s'élaborer à partir de l'animisme, vont aller vers des systèmes plus explicites quant à comment le monde est organisé, s'il y a des êtres. Là, on crée plus d'êtres. Chez les nomades, il y a des êtres, mais ce sont des êtres, on va se contenter d'une écriture mythologique du monde. Chez les Iroquois, le mythe est là aussi, mais on va créer des entités. Et alors, vous voyez le début de la religion. Et c'est intéressant ici, vous avez chez les Iroquois, comme chez les Sioux, une création d'une entité qui annonce le monothéisme, si on avait laissé aller l'Amérique amérindienne encore un 500 ans, là, qui annonce l'apparition d'un monothéisme, mais dans tous les cas, il s'agit d'une femme. C'est-à-dire que Dieu est une femme. Alors, cette théorie là, qui est très à la mode, dont on dit le premier monothéisme n'est pas masculin, il va falloir qu'on travaille très fort pour mettre un homme à la place, pour dire Allah et Dieu et Yahvé et tout ça. C'était une femme. Et en Europe, on s'en rend compte, c'était une femme. Et quand on compare les mythes d'origine iroquoien, avec cet Huron iroquois,
oui,
avec cette femme qui danse au-dessus des eaux et qui est, c'est une grande déesse qui danse au-dessus d'un lac et puis qu'un serpent qui vient, qui va l'enrouler, c'est très érotique et tout ça. Et puis le vent du nord, et là on a la création de la terre, on a la création des humains. Ça ressemble énormément à la mythologie, aux origines. Alors, en fait, c'est presque le même mythe que le mythe d'origine des Grecs et les mythes de fondation de toute la mythologie grecque. Alors, voyez, nous sommes des humains sur Terre, on fabrique des images, mais nous avons tous une même origine animiste, et les Amérindiens d'Amérique en sont sont des témoins privilégiés de ce grand moment de l'humanité.
Que la force soit avec vous.
Merci.
Serge Bouchard, merci beaucoup.
Merci.